Les Apatrides Anonymes, émission du 16 décembre 2021, en direct tous les deux jeudis dans les studios de Choc, choc.ca. À l'UQAM, Les Apatrides, c'est votre rendez-vous bimensuel d'actualité en immigration, racisme, frontières, etc. Dernière émission de 2021.
Yay!
Ah, Marie-Ève, elle a hâte de finir.
Non, j'ai juste hâte de finir l'année. Point.
Ouais, année dont on mettra à la poubelle peut-être éventuellement. Donc, émission de format régulier, mais on aura sûrement quelque chose de spécial pour vous début 2022. Simon, aujourd'hui à l'animation, quelques brèves entre les segments plus importants, plus substantiels, qui vont être présentés par mes deux comparses qui vont alterner entre la console et le studio. Marie-Ève, bonjour, tu es en ma compagnie.
Oui, je suis en ta compagnie.
Avec tantôt tu nous arrives avec la Grèce et ouais. Contenu 100% européen de ta part.
Oui, la Grèce et plus tard la Manche.
Oui, où il se passe on soupçonne moins mais il s'en passe énormément.
Oui, beaucoup et pas de belles choses.
OK, bon, mais plus de détails plus tard. Mathieu qui est à la console, salut Mathieu.
Salut.
Mon Dieu, c'est un salut imposant.
Gros
bloc plus tard que tu vas nous présenter qui va arriver à faire des liens entre des enjeux autochtones récents et la Serbie. J'ai bien hâte d'entendre ça.
Oui, l'extractivisme et aussi l'environnement.
Ah, c'est ça, les liens.
Le gros chebloc.
Et vers la fin des enjeux plus locaux en immigration.
Oui.
On vous revient dans quelques secondes pour commencer vraiment l'émission avec Marie-Ève aux Apatrides. Donc, Marie-Ève, je vais te voler un peu de ton temps. Comme
je sais, tu fais toujours ça.
Je me corrigerai jamais. En tout cas, peut-être une résolution à prendre pour 2022.
Non, pas du tout. Continue comme ça.
On te retrouve juste dans une petite minute. Une petite brève, donc, les statues de conquistadors, d'empereurs et compagnie qui continuent de se faire démanteler un peu partout. Pour ceux qui nous écoutent en balado, vous avez vu une photo un peu déstabilisante de statues bizarres en cliquant sur le lien de notre émission. C'est ce qui est reconnu comme la statue confédérée la plus laide des États-Unis et elle vient d'être retirée la semaine dernière. Et vous n'avez pas le choix, si vous l'avez pas vu, d'aller faire une recherche d'image en ligne. C'est tellement affreux, ça n'a aucun sens. En tout cas, pour faire la recherche d'image, tapez juste Ugly Confederate Statue, puis vous allez avoir un million de résultats à peu près. Statue offensante pour ce qu'elle représente, évidemment, mais aussi choquante pour les yeux et le bon goût. C'est une statue de Nathan Bedford Forrest, général confédéré et premier grand wizard, je sais pas comment traduire ça, du KKK, du Ku Klux Klan. Statue équestre et en couleur, madame, le cheval a l'air aussi dément et déformé que le général en question. Ça avait été érigé le long d'une autoroute au Tennessee en 98, ce qui est quand même assez troublant en soi. Et comme le terrain où se trouve la statue est privé, la statue, d'ailleurs, elle avait été sculptée par le propriétaire du terrain, qui est mort récemment, les héritiers ont décidé simplement de la démanteler et carrément de la détruire. Donc, je vais vous parler de cette petite nouvelle un peu insolite, juste pour vous encourager à aller voir cette statue archi-laide, si vous avez le goût de rire un peu. Et sans queue ni tête, comme ça, sans lien apparent, on s'en va en Grèce.
Où des choses très laides se passent aussi.
Il y a toujours des liens.
Mais je vais commencer avec la visite du pape, dont on est friand ici aux Apatrides Anonymes. Oui. On ne vous a jamais parlé du pape. En fait, c'est qu'il s'est rendu à Athènes sur l'île de Lesbos, mais aussi à Chypre au début du mois de décembre pour défendre la cause des personnes migrantes lors d'un voyage de 4 jours. Comme je vous disais, c'est ça, son premier arrêt s'est effectué sur l'île de Chypre où la République dit enregistrer le plus grand nombre de premiers demandeurs d'asile dans toute l'Europe et affirme que quelques 10 000 exilés en situation irrégulière sont arrivés au cours des 10 premiers mois de l'année, ce qui est beaucoup pour une si petite île.
Quand même.
La plupart aussi qui arrivent depuis le nord de l'île qui est occupée par la Turquie. Les arrivées de personnes migrantes y ont augmenté de 38% par rapport à l'ensemble de l'année 2020. Ça, c'est les chiffres de l'OIM. À la mi-novembre, la République chypriote avait d'ailleurs demandé à la Commission européenne le droit de suspendre les demandes d'asile des personnes qui entrent dans le pays de façon irrégulière. Faut dire aussi que les conditions de vie des migrants, migrantes à Chypre sont jugées très difficiles par les ONG du pays, entre autres à Pournara, qui est le principal centre d'accueil de l'île où s'entassent des centaines de personnes dans l'attente de l'examen de leur dossier d'asile. Et selon les autorités chypriotes, il y aurait des négociations en cours avec le Vatican pour organiser le transfert d'une cinquantaine de personnes migrantes vers l'Italie. Mais on connaît pas les détails de l'entente, puis c'est pas quelque chose qui a été confirmé par le Vatican non plus.
C'est vrai que le Vatican se mêle de migration.
Ben, il avait fait ça lors de sa dernière visite en Grèce en 2006.
Okay.
Ouais. 2016, pardon, ouais. Donc, je me tourne vers la Grèce. Le pape s'est ensuite rendu à Athènes. Il a rappelé à l'Europe sa responsabilité dans la crise migratoire et déploré qu'elle soit, je cite, parfois bloquée et déchirée par les égoïsmes nationalistes au lieu d'être un moteur de solidarité. Il a aussi parlé d'un recul de la démocratie et des dangers d'un autoritarisme expéditif et du piège que représentent les solutions faciles offertes par les populismes de droite. Et il a terminé son séjour à l'île de Lesbos, plus précisément au camp de Mavrovouni, qui abrite près de 2200 demandeurs d'asile. Dans son discours, il est pâlé avec le dos de la main morte, comme dirait un tel.
Uh-huh.
Il a dit que la Méditerranée, je cite, est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale, et il a qualifié la situation de naufrage de civilisation. Dans les faits, même si la situation à Lesbos semble pas aussi critique que lors de son dernier voyage, comme je vous disais, c'est bien ça, c'était en 2016, il y a une quarantaine d'ONG qui l'ont quand même exhorté à intervenir pour faire cesser les refoulements présumés d'exilés vers la Turquie. Refoulement que Athènes dément. Dans une lettre, les ONG ont aussi dénoncé la mise en place en Grèce de camps fermés et à accès contrôlé. Ce sont des camps entourés de fils barbelés et fermés par des portails à rayon X. Trois de ces camps-là, ultra sécurisés, sont dans les faits comparables à des prisons. Ils ont déjà été ouverts aussi, dont un sur l'île de Samos en septembre, et de les deux autres, l'île de Léros et Kos, ont été inaugurés là tout récemment à la fin novembre.
Je crois que Lesbos, ça s'en vient éventuellement.
Oui, ça c'est l'année prochaine avec l'île de Chios aussi, Chios ou Kios, je sais pas comment Kios. Et donc les deux là de Léros et Kos peuvent accueillir chacun 2140 personnes. L'Union européenne y a investi quand même 276 millions d'euros dans la construction de ces nouvelles installations-là. Et dans tous les camps, dans tous ces camps-là, là, ultra sécuritaires, les entrées des demandeurs d'asile sont contrôlées avec des badges électroniques et leurs empreintes digitales sont vérifiées. Les migrantes peuvent sortir dans la journée, mais doivent rentrer le soir parce que les centres sont fermés la nuit. Ce sont des centres isolés des centres-villes. Les camps, donc, marginalisent encore plus les exilés. Selon les ONG, ça risque de compliquer assez gravement leur inclusion sociale parce que, bon, les demandeurs d'asile risquent d'avoir moins de chances de trouver des opportunités d'emploi sur place ou encore d'avoir des moyens d'améliorer leur apprentissage de la langue grecque.
Ouais, pour les enfants aussi.
Oui, non, c'est pour aussi l'école et tout. Les ONG considèrent aussi que ces lieux-là entravent l'identification et la protection des personnes vulnérables, limitent l'accès aux services, comme tu le dis, mais à l'assistance aussi pour les demandeurs d'asile, puis ça exacerbe les effets néfastes du déplacement sur la santé mentale des individus. Mais il faut dire qu'en général, au-delà de ces camps là ultra sécuritaires, les conditions de vie dans les camps, dans l'ensemble des camps en Grèce, sont vraiment catastrophiques. Au moment où le pape visitait le pays, il y a 27 associations qui viennent en aide aux personnes exilées qui ont alerté les autorités grecques que depuis deux mois, près de 60% des personnes qui vivent dans les camps souffrent de la faim. Ils crèvent de faim, en fait. Concrètement, c'est des milliers d'enfants qui vont à l'école le ventre vide, de parents qui se privent de nourriture pour leurs enfants, de femmes enceintes qui mangent pas à leur faim, etc. C'est que ce qui explique ça, c'est que Athènes a toujours pas pris le relais du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour le versement de l'allocation financière qui est destinée aux demandeurs d'asile. Donc depuis deux mois, les demandeurs d'asile en Grèce vivent sans ces sommes-là. qui leur permettait à la fois d'acheter des compléments de nourriture, mais aussi des vêtements, des produits d'hygiène ou encore de payer leurs déplacements. Puis, depuis le début d'octobre, en plus, les réfugiés statutaires ou les personnes qui, puis les personnes qui ont été déboutées, eh bien, elles sont exclues carrément des distributions de nourriture dans les camps. Donc, pour l'instant...
Ben, comment, qu'est-ce qu'elles font, là?
Ben, c'est ça. Pour l'instant, c'est des gens des communautés locales, des collectivités locales, puis des bénévoles qui se rendent dans les camps et donnent aux personnes déboutées ou réfugiées quelque chose à manger, sauf que...
J'espère qu'on les laisse rentrer dans les camps.
Oui, on les laisse rentrer, okay. Sauf que, comme je disais, les camps sont souvent éloignés. Puis ben donc c'est pas une solution à long terme là, c'est pas vivable à long terme ni pour les communautés ni pour les migrants qui s'y trouvent. Pour Mélina Spatari de l'association Terre des Hommes, le gouvernement grec crée une hiérarchie parmi les personnes en supprimant le droit à la nourriture pour les personnes déboutées, les réfugiés statutaires et le réservant seulement pour les demandeurs d'asile. Juste la cité, elle dit la nourriture ne devrait pas être un privilège, mais un droit humain basique.
Ben oui.
En terminant, c'est que en plus cette décision-là ne tient pas compte de la réalité sur le terrain parce que la Turquie refuse de reprendre les migrants déboutés de Grèce. Puis quant aux réfugiés statutaires, ben même si en théorie ils pourraient quitter le camp, c'est très difficile pour eux et elles de vivre en ville par leurs propres moyens en raison de la crise économique qui fait quand même encore des ravages en Grèce. Et donc, si ces personnes-là quittent les camps, mais dans les faits, elles vont se retrouver fort probablement sans abri, puisque les personnes réfugiées ont même pas accès à un compte bancaire en Grèce. Et sans compte bancaire, c'est impossible pour elles de trouver un emploi légal. Donc, tout ça pour dire que le pape a beau avoir eu des mots durs envers la Grèce et l'Union européenne, mais pour ceux et celles qui sont bloqués dans les camps, certains et certaines depuis des années, j'ai lu des témoignages de personnes qui sont là depuis 2-3 ans, ben c'est les actions qui importent, puis là ça presse.
Ouais, les discours, ben le ton, quand on peut quand même saluer, parce que je sais pas si c'est une autorité morale qui peut réussir à faire infléchir des gouvernements plus fermés à droite, j'ai l'impression que non.
Ben, c'est parce qu'il était pas là juste pour ça, il était là aussi pour se rapprocher des catholiques orthodoxes, là.
Ah oui, OK.
En Grèce, c'est 1% de la population qui est catholique, je pense, ou 2%, fait que c'est sûr que l'influence directe chez les fidèles peut être assez limitée.
Non, c'est ça, mais il est quand même pas aimé... le pape François pour parce que il tient quand même un discours très critique des politiques actuelles de certains pays, tu sais. Puis là, j'en ai pas parlé, mais par exemple lors de sa visite, que ce soit à Athènes ou sur l'île de Lesbos, le dispositif pour les policiers était vraiment vraiment impressionnant parce que il y a des, tu sais, évidemment, ils craignent pour sa sécurité étant de la part de groupuscules et d'organisations d'extrême droite à cause des propos qu'il tient en solidarité avec les personnes migrantes.
T'sais. C'est ça, il va un peu à l'encontre de plein de discours populistes.
Quand même, ouais, c'est ça.
Bon, Marie-Ève, merci beaucoup.
Je pensais jamais vous parler du pape un jour aux apatrines, mais bon.
Je pense que
c'est pas la première fois.
Non, c'était pas la dernière. En 2022, on en parlera beaucoup, j'imagine. Avant de passer en musique, on n'a pas fini avec le contenu peut-être un peu plus difficile. On essaie de rendre ça digeste. On se déplace à l'autre extrémité de la Méditerranée, à quelques 2700 km vers l'ouest, au Maroc, dont les relations avec l'Algérie sont de plus en plus tendues. Avec ce qu'on apprenait fin novembre, ça risque pas de s'améliorer puisqu'il y avait le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en visite officielle au Maroc, et les deux États, Maroc et Israël, en ont profité pour signer un accord de coopération sur la sécurité, accord qualifié d'historique et de sans précédent qui ratisse vraiment large. On parle de coopération sécuritaire sous tous les aspects, d'échange d'expertise, de formation, de transfert technologique, de cybersécurité, et des analystes disent que ça va grandement faciliter l'acquisition par le Maroc d'armements de toutes sortes. On doit rappeler qu'Israël... c'est pas rassurant du tout, parce que dans la région, il y a beaucoup de tensions actuellement. T'sais. Et il faut rappeler aussi qu'Israël a un arsenal nucléaire, spécialiste des boucliers antimissiles, dans les drones de surveillance et d'attaque. C'est l'un des principaux leaders de ces catégories d'armement-là. Donc, pour l'instant, le gouvernement marocain dit ne pas avoir acheté le très controversé logiciel espion Pegasus, mais il y a des doutes qui persistent. C'est la première fois qu'Israël signe un accord de ce genre-là avec un pays arabe, Même l'Égypte et la Jordanie, avec qui Israël a normalisé ses relations depuis des décennies, ont jamais signé de tels accords. Et là, après seulement un an de relations normalisées entre le Maroc et Israël, tout de suite, un genre de pacte de défense à grande échelle. Ça sent pas très bon et le gouvernement israélien cache pas vraiment ses intentions, dit que l'Algérie se rapproche un peu trop du régime iranien, que c'est un ennemi d'Israël. Algérie qui soutient assez fortement la cause palestinienne aussi, beaucoup plus que le Maroc. On chercherait par cet accord-là à envoyer des messages forts au gouvernement algérien. Donc, la magie de la politique. Et selon certains analystes, cette signature-là chercherait aussi à intimider le Sahara occidental. Mmh. On va devoir suivre ça de près en 2022. Le Maroc qui s'isole dans la région et développe des drôles d'amitié, je trouve. Je me rappelle pas si on en a déjà parlé, mais le Maroc coopère aussi avec le gouvernement chinois sur le renvoi de réfugiés ouïghours vers les camps de travaux forcés en Chine. Donc, un pays à majorité musulmane qui renvoie des musulmans se faire génocider par le gouvernement chinois. C'est quand même assez particulier. L'accord Israël-Maroc, c'est complètement autre chose, on s'entend, mais ça a le pouvoir de déstabiliser encore plus la région.
La région, ben oui, c'est clair.
On va aller en musique, on va respirer un peu. On change complètement d'univers, une artiste autochtone, Béatrice Deer, la pièce, attendez, je sors mon meilleur Innu, Ukautinga. C'est Béatrice Deer, D-E-E-R. Elle est basée à Montréal. Elle est moitié Inuit, moitié Mohawk. Artiste bien établie, active depuis 2005. C'est son cinquième album qui vient de sortir le 10 décembre dernier, qui s'intitule Shifting. On l'a dit précurseur du style Inuindi.
Ouais, parce qu'elle mélange différents styles, vraiment.
Ça reste rock-pop quand même, en général, avec, comme tu dis, plusieurs influences qui viennent saupoudrer.
Elle a des petites passes un peu plus sales, disons.
Oui. Non, c'est bon, vous allez voir. Fait qu'on l'écoute avec la pièce en Inuktitut qui s'appelle Ukautinga. Et au retour, ce sera Mathieu, j'en parlais en introduction, là, d'un amalgame de sujets qui semblent un peu dissonants. Là.
Thank you.
Béatrice Dear aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Je suis maintenant en compagnie de Mathieu.
Bonjour Simon.
Bonjour Mathieu. Je parlais de sujets dissonants. T'étais pas tout à fait d'accord.
Non, parce qu'on peut faire des liens entre des choses qui ont en apparence l'air disparates.
De l'intersectionnalité.
Par exemple. Intersectorialité. Non, mais j'ai pris des sujets d'actualité, puis je me suis dit, ben, ils ont un certain lien entre eux.
Parfait.
Donc, environnement, extractivisme, défense du territoire, répression. Donc,
je vais essayer. C'est des enjeux universels quand même. Là.
Oui, genre. Puis qui se passent dans différents pays, comme tu sais. Ça commence avec un article du magazine en ligne Pivot, dont je vous ai parlé dernièrement aussi, qui s'appelle « Ruée vers les minéraux, la transition énergétique mal partie pour être écologique okay. ». Ça, je prends peut-être pas grand-chose à grand monde, mais quand même, je vais vous raconter ça. Les projets miniers se multiplient partout dans le monde pour extraire les minéraux nécessaires pour faire rouler nos voitures électriques et fonctionner nos panneaux solaires.
Ben oui.
Bien que les entreprises minières présentent leurs activités comme une solution à la crise écologique, cela est loin d'être toujours vrai, selon Mining Watch Canada et l'Atlas de la justice environnementale AJE. Les deux organismes ont dévoilé un rapport récemment exposant les principaux risques environnementaux et sociaux posés par certains projets miniers liés à la transition énergétique et écologique. Donc, la transition accélère l'exploitation de minéraux dits critiques, comme le lithium, le graphite, le cuivre, le cobalt ou le nickel. On a déjà parlé de mines, entre autres, au Canada.
Qui ne se trouvent pas tous au Canada, mais une certaine partie d'entre eux.
Une certaine partie, un peu partout dans le monde. L'extraction minière vise des gisements dans des zones toujours plus fragiles et plus éloignées, comme la forêt amazonienne. Et puisque les gisements exploités sont de moins en moins concentrés en minéraux, l'extraction génère de plus en plus de déchets et nécessite davantage d'énergie, d'eau et de produits chimiques. Mmh. On parle d'extraction, entre autres. Je cite Gary McKinney, membre de la nation autochtone Shoshone et opposant à la mine de lithium Tiger Pass au Nevada. Il dit « Nous ne pouvons pas résoudre la crise environnementale simplement changeant une erreur pour une autre. Hein? » C'est assez clair.
Ben, il a raison.
Il a raison. Fait que Mining Watch et l'AJE ont aussi conçu une carte interactive qui recense certaines des contestations provoquées en Amérique, dans les Amériques, par la ruée vers les ressources minières. Les projets répertoriés portent atteinte aux droits démocratiques, en particulier aux droits des communautés autochtones. C'est pourquoi les contestations populaires se multiplient sur le continent américain. En retour, les personnes qui défendent leur environnement sont souvent criminalisées ou tout simplement assassinées, comme on a souvent parlé en Colombie ou Honduras et dans d'autres pays.
Guatemala,
entre autres, Brésil. Parmi les projets internationaux recensés, la très vaste majorité est liée à des entreprises canadiennes, parce que 60% des minières du monde sont enregistrées au Canada, on le sait aussi.
Ouais.
Je cite Hugo Lapointe de Mining Watch, « Nos gouvernements provinciaux et fédéraux dépensent des centaines de millions pour subventionner des voitures électriques, mais des pinottes pour prévoir le recyclage des produits. » Donc ça aussi, c'est une autre évidence.
Le cycle complet de vie des produits, c'est pas souvent considéré dans son ensemble.
Exactement, aussi. Exactement. Mmh. Fait que l'écologie, on passera. Je suis tombé sur une pétition que tu m'avais d'ailleurs envoyée, Simon. Matière première, place à la déconsommation, mmh. un nouveau terme. Automobile, construction électronique, l'Allemagne, dont tu vas parler tantôt,
ouais.
et son industrie consomme bien plus de métaux que ce qui est écologiquement et socialement viable, souvent importé des forêts tropicales de la planète. Donc, c'est une pétition adressée au gouvernement allemand. Par exemple, en Équateur, des milliers d'hectares de forêts amazoniennes sont défrichés pour le projet minier industriel de Mirador. Les eaux usées de la mine de cuivre à ciel ouvert empoisonnent les rivières et font perdre au peuple chouar ses moyens de subsistance. Le cuivre extrait est expédié en Chine pour être transformé, entre autres, en feuilles qui seront utilisées dans les batteries des voitures électriques. En Indonésie, des manifestations similaires ont lieu sur l'île de Célébès, où les mines et les fonderies de nickel provoquent la destruction des forêts tropicales et des mangroves. Le déversement dans la mer de déchets toxiques porte gravement atteinte aux récifs coralliens, à la faune marine ainsi qu'aux moyens de subsistance des pêcheurs locaux. Mmh. Le nickel est un composant important des batteries lithium-ion des voitures électriques. Ça, c'est des compagnies allemandes qui sont actives ailleurs.
Des métaux lourds.
Là. Des métaux lourds, exactement. Serbie, Simon, le lien, tu vas le voir tout de suite.
J'en tripping.
La semaine passée, des milliers de personnes ont bloqué des grandes routes en Serbie, où la colère monte contre le projet du gouvernement d'autoriser le géant minier Rio Tinto à extraire du lithium.
En Serbie.
Ah,
OK, on n'aurait pas imaginé du lithium dans les Balkans, mais ben oui.
Ce qu'ils appellent les métaux rares, ça a l'air qu'il y en a un peu partout. Il s'agit de fouiller. D'importants gisements de lithium, un composant essentiel pour les piles de voitures, ont été découverts près de Loznica, où la société anglo-australienne a commencé à acheter des terres, mais attend le feu vert de l'État pour commencer l'exploitation. C'est un projet de 2,4 milliards de dollars. Le président serbe Aleksandar Vučić a été très critiqué pour ce projet. Son administration est accusée d'ouvrir la voie à des appropriations de terrains illégales et de mettre de côté les préoccupations environnementales. Donc, tu vois que ça se passe là, dans différents pays.
Ça se passe probablement dans tous les pays, en fait.
Dans tous les pays,
hein. Mais c'est ça, on a des exemples plus gros qui ressortent une fois de temps en temps, comme celui-là en Serbie. Là.
Oui, mais surtout c'est un pays européen aussi.
On est moins habitué que ça se passe là, peut-être.
Exactement, dans ce genre de projet-là. Je vais continuer, Simon, dans quelques instants avec d'autres liens super intéressants.
Juste rappeler qu'on est aux Apatrides Anonymes et sur choc.ca, Mathieu, on te retrouve tout de suite.
Oui.
Toujours de Mathieu.
Oui,
t'as pas bougé, c'est bien.
Non, écoute, j'attendais ton cue.
Vas-y.
Vaillamment. Un article de Press Progress sur... je reviens un peu sur les Wet'suwet'en parce que il y a un lien avec tout ça, des enjeux d'environnement, de répression, de défense du territoire. Hein? Puis c'est un exemple assez fort ici actuellement. Un article qui est paru dans Pivot aussi qui s'appelle « Déployer les tireurs d'élite et des équipes d'assaut face aux Autochtones, c'est plus pratique selon la GRC ». Selon des experts, les opérations menées par la GRC dans les territoires des Wet'suwet'en représentent une escalade dans la militarisation de la police. Hein. On a vu des images et des vidéos, entre autres.
Ouais.
La GRC justifie sa décision de déployer des unités tactiques, incluant les tireurs d'élite et des équipes d'assaut lourdement armées, contre les défenseurs du territoire non armés, en insistant sur le fait qu'il est plus pratique d'être plus équipé que nécessaire, parce qu'après ça, on peut enlever si on en a trop d'équipement et de personnes.
C'est ça la logique.
C'est ça la logique officielle. Ouais,
c'est, on peut désescalader, c'est bien, n'est-ce pas?
Oui.
Ça, j'aime ça comme logique.
Volontairement,
vraiment,
en plus, hein, selon le bon jugement du commandant.
C'est tellement policier, là, ça n'a pas d'allure.
Les équipes d'intervention d'urgence, les ERT, sont utilisées de façon inappropriée dans le but de réprimer les manifestations pacifiques des Autochtones sur leur propre terre. Ça, c'est pas la GRC qui dit ça, c'est un expert.
Merci de le préciser.
Du collège des Forces armées canadiennes, quand même.
Okay.
Les ERT ont été conçus au milieu des années 70 pour faire face à des prises d'otages armées. Hein, c'est vraiment le SWAT, là, comme on connaît ici. Lors des dernières interventions au mois de novembre, la GRC a déployé des snipers, des chiens, des hélicoptères, des voitures banalisées et des véhicules de location et des autobus pour transporter les troupes.
Il n'y a pas de bombe nucléaire avec ça, non?
C'est pas dit.
Oh.
La GRC a brouillé électroniquement les signaux radio Internet et a détruit les principales lignes de communication radio. Hein, quand même. Je cite une porte-parole des Wet'suwet'en. C'est odieux qu'ils aient déployé autant de policiers et utilisé autant de ressources alors que la Colombie-Britannique était en état d'urgence. Il y avait des gens piégés dans des coulées de boue qui avaient besoin d'être secourus. Hein, on se rappelle, c'était au même moment.
Oui, on voit les priorités. Là.
Oui, tout à fait. Selon un autre expert, la GRC a été réduite à jouer le rôle d'agent de sécurité privé violent pour le compte d'une compagnie pétrolière et gazière. Je pense que l'emploi de l'ERT, là, les équipes d'urgence, et des tireurs d'élite est clairement un abus de pouvoir destiné à intimider les gens. C'est conçu pour traumatiser. Et on apprend que la GRC a dépensé plus de 13 millions de dollars pour faire appliquer l'injonction pour le compte de Coastal Geisling depuis 2 ans. Et aussi 3,75 millions pour faire appliquer l'injonction à Ferry Creek, la fameuse les forêts anciennes, pour le compte de la société Teal Jones.
Sur l'île de Vancouver.
Ça. Exactement, sur ce dont on avait parlé là, à quelques reprises. Sinon, vous dire, je retrouve mes feuilles. Oui, voilà que là, je change de continent, je reviens.
On retourne en Serbie?
Non, on s'en va à l'ONU, mais on parle de la Russie. Donc, écoute, tu vas voir le lien. Cette semaine, la Russie a mis son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à un projet porté par le Niger et l'Irlande ensemble, établissant un lien générique entre le réchauffement climatique et la sécurité dans le monde. Une résolution qui était soutenue par une majorité de membres des Nations Unies.
Oui.
Le texte demandait d'intégrer les risques de sécurité liés au climat en tant qu'élément central dans les stratégies globales de prévention des conflits dans le monde. Excusez, je cherche ma feuille.
Ça a été voté contre par la Russie.
Ils ont mis leur veto.
C'est ça, okay.
Exactement. Il y a eu, si tu veux savoir, il y a eu 12 pour, 2 abstentions, puis ben, sont 15 dans le conseil, là, puis un veto, un refus qui est... Mais le président du Niger, qui parrainait la résolution, Mohamed Bazoum, était venu en personne plaider en faveur de la résolution. Et le texte était parrainé, fait rare à ce niveau, co-parrainé par 113 des 193 pays membres de l'ONU, ce qui est assez rare là, quand même pour une genre de résolution comme ça. Mohamed Bazoum, donc le président du Niger, avait estimé qu'il y avait un lien évident entre le réchauffement de la planète et la sécurité, alors que l'accès à l'eau, la pénurie alimentaire ou l'insécurité climatique permettent aux groupes armés de prospérer en profitant de la vulnérabilité des populations, et aussi qu'il y avait un effet multiplicateur, le changement climatique est un facteur aggravant d'instabilité, de conflits et de terrorisme.
Ben forcément.
Donc ça a été bloqué.
En Russie, ils vivent hein, dans le nord de la Russie avec le pergélisol qui font les émanations de méthane, et il me semble qu'ils pourraient se réveiller un petit peu. Là.
Ah oui, tout à fait, mais ils se réveillent pas.
Puis... Ah non, mais il a fait genre, dans le nord de la Russie, il a fait 38 cet été. Là. Ah, c'est oui, des températures records, 38 degrés Celsius. Et, je veux dire, il y a des sécheresses partout. Les agriculteurs, mais ceux, les éleveurs de bétail, il faut qu'ils fassent de plus en plus de kilomètres pour aller faire paître leurs bêtes parce que ils y arrivent plus là.
Ça doit être loin de Moscou, hein, tout ça.
Ouais, ben c'est loin de Moscou, sauf que c'est dans le nord pareil, tu sais. Puis.
Ben vu que le pergélisol fond aussi en Sibérie, le méthane sort à pleine poche, puis ça fait de la pollution comme si c'était un lieu
extrêmement polluant.
Ben oui, tout à fait. Mais la Russie, ils sont dans une game politique de toute façon où ils bloquent à peu près tout au Conseil de sécurité actuellement. Ils bloquent tout ce qui se passe en Centrafrique, en Libye, en Syrie, parce qu'ils ont des intérêts géopolitiques évidemment. Mais tout ça pour dire que l'Inde s'est abstenue aussi parce que eux autres, ils disent qu'il n'y a pas de lien entre la sécurité et l'environnement. C'est plus entre le développement économique et l'environnement. Puis la Chine aussi s'est abstenue, évidemment, ça arrive souvent.
Mais pourtant, l'Inde, en plus, les agriculteurs, la grève vient de finir. Là,
vient de finir, mais parce qu'ils ont réussi à gagner leur point, en fait. Mais puis il y a des élections qui s'en viennent. Mais là, je vais finir avec mon dernier sujet.
Ah oui,
écoute, c'est hétéroclite. comme le dernier est plus hétéroclite, mais... Et sympathique, je sais pas si vous l'avez vu passer. La multinationale Coca-Cola a menacé de procès une petite entreprise communautaire autochtone du sud-ouest de la Colombie si elle ne changeait pas immédiatement le nom de sa bière Coca-Cola qui est produite localement. Je cite la compagnie Coca-Cola. Son utilisation pour aller à l'encontre de la loi sur les marques en Colombie est constituée également une violation de la loi sur la concurrence déloyale, mesdames et messieurs.
Ben oui, les gens vont se tromper.
Hein. Oui, évidemment. Écoutez, c'est quand même drôle. La bière brassée par les autochtones NASA du département de Coca est produite par la société Coca-NASA, une entreprise d'alimentation de médicaments traditionnels.
La NASA sera pas contente.
Avec un... Oui, c'est vrai. Hein, c'est avec un S. Oui. C'est une entreprise d'alimentation de médicaments traditionnels, de boissons aromatiques et d'autres produits fabriqués à partir de la feuille de coca, évidemment. Son nom vient du terme Pola, qui veut dire bière en Colombie, et Coca, on sait ce que ça veut dire.
Ben ouais.
Pour David Courtidor, responsable juridique de Coca-NASA, ce n'est pas la première fois que la multinationale américaine les menace juridiquement. Je le cite, « Nous irons aussi loin que Coca-Cola nous mènera, nous danserons sur n'importe quelle air qu'ils joueront. S'ils nous menacent de notre existence, nous résisterons. Hein, » Il prend ça avec philosophie. Et je rappelle que produisant 7000 bières par mois, 7000 bouteilles de bière, Coca-Cola existe depuis 4 ans et emploie environ une vingtaine de salariés. 7000 bouteilles, ça doit être ce que fait Coca-Cola à la seconde, là, à peu près.
Ouais, c'est dans le monde. Même,
fait qu'ils poursuivent. Fait que c'est ça, les grosses multinationales qui poursuivent les petites entreprises locales, coopératives autochtones. Donc, on boucle la boucle avec l'environnement, l'extractivisme, la défense du territoire et aussi la répression des autochtones.
Ouais, c'est un bel exercice de diction.
C'est quoi le nom de la bière, Simon?
Coca-Cola.
Coca-Cola.
Puis c'est la compagnie Coca-NASA.
Coca-NASA.
Oui. Puis la grosse, c'est Coca-Cola, je pense.
Oui.
Merci. Puis d'ailleurs, tu as mentionné, je reviens un peu en arrière, tu parlais d'une carte en ligne où sont répertoriées les luttes environnementales dans les Amériques. On mettra le lien dans notre page FB pour que vous puissiez aller voir ça. Je serais curieux de voir ça, moi.
Oui, tout à fait.
Ben merci Mathieu, toujours sur choc.ca aux apatrides. On va aller en musique dans 2 minutes, là, mais d'abord, je prends encore le micro. Quelques nouvelles de l'Allemagne que tu as évoquées rapidement, qui après 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel, avec un bilan social et migratoire, disons, en dents de scie, avec autant du négatif que du positif, ben Merkel avait toutes sortes d'éléments disparates avec lesquels elle a dû composer autant dans son propre parti, qui est plutôt conservateur, que dans les coalition qu'elle a dirigée. Ben voilà, on a maintenant un tout nouveau gouvernement de coalition et l'Allemagne étant le poids lourd de l'Union européenne, ben c'est important de connaître son agenda. La composition de la nouvelle coalition, le nouveau chancelier Olaf Scholz, je ne sais pas si je prononce bien, qui est aussi membre des sociaux-démocrates du SPD, qui font alliance avec les Verts et les libéraux du F, comme François DP. C'est une coalition, disons, de centre-gauche, on peut dire ça comme ça. Chose ne vient pas de l'Union chrétienne-démocrate, mais il était le vice-chancelier à la fin de l'ère Merkel. Donc déjà plein d'engagements en matière migratoire qui ont été annoncés, même si ça fait juste quelques jours que le gouvernement est en place. Et on doit le dire, ça reste principalement des objectifs, ça va passer différentes étapes législatives, mais c'est quand même assez encourageant, je dirais, pour l'instant, sans être tout rose. On n'est pas du tout dans les discours fâchés de fermeture comme on le voit chez la plupart des voisins de l'Allemagne. Je vous donne des exemples. La coalition veut accélérer les procédures de demande d'asile, mais en même temps lancer un rapatriement offensif. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, rapatriement offensif pour les personnes qui ne présentent pas de base légale pour rester dans le pays. Donc, ce sera expliqué. On veut faciliter le regroupement familial pour les personnes qui ont obtenu le droit d'asile, donc pour les réfugiés. Ça, ce serait une nouveauté. On veut réduire la migration irrégulière, mais ouvrir davantage de voies régulières. Donc, sachant que les voies irrégulières sont directement causées par l'insuffisance de voies régulières,
oui.
C'est probablement une bonne nouvelle.
C'est logique, oui.
C'est logique. On parle de corridors humanitaires ou de nouveaux programmes spéciaux pour les personnes en danger. Donc, si je prends un terme administratif à la mode, ça voudrait dire être plus agile selon la situation spécifique d'une région, donc être plus proactif. On donnait l'exemple de l'Afghanistan, soit être capable d'être plus réactif plus rapidement dans des cas précis.
Mais ça pourrait être aussi dans le cas justement de la Pologne, Biélorussie.
Oui, dans la mesure où l'Allemagne peut intervenir avec ses voisins européens.
C'est ça.
Oui, c'est un bon exemple. On verra. Ben, ce sera un test d'ailleurs. On verra une fois qu'ils seront vraiment en place, là, quelles actions ils vont prendre. Ce sera, oui, c'est intéressant. On veut régulariser les personnes en situation irrégulière qui n'ont pas commis d'autres infractions que de ne pas être en règle du point de vue de leur statut juridique personnel. Cet objectif-là est plus détaillé que les autres. Donc, toute personne qui vit en Allemagne depuis 5 ans au 1er janvier 2022, qui n'a commis aucun crime, va obtenir un permis de séjour probatoire d'une durée d'un an, période pendant laquelle ce sera possible d'effectuer les démarches de régularisation. Et ça va être assorti d'un permis de travail en bonne et due forme, ce qui est quand même fondamental. En même temps, d'un point de vue européen, la nouvelle coalition veut renforcer l'agence Frontex et les frontières extérieures de l'Europe. Et aussi, on va leur souhaiter bonne chance là-dessus, négocier un nouveau Dublin, donc des nouveaux accords de redistribution des migrants entre les différents États de l'Union européenne. Donc, à suivre, on est devant une dynamique un peu différente à Berlin et ça vient peut-être bousculer l'échiquier européen. Mais à ce niveau-là, j'aurais pas trop d'attente. On va aller en musique. Une pièce qui figure au palmarès choc francophone et hip-hop, c'est Fides ou Marie-Lou Lavoie, qui est une jeune rappeuse de l'Est de Montréal. Elle était avec DJ Jeff Lauber et Cola. C'est du bon hip-hop, bien engagé, bien féministe, et on y va avec la pièce Vorace de l'album Oasis, paru tout récemment. On écoute Fides aux Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Mon thorax est barré, c'est vorace. Comment mon cou est contracté, mes pensées sont trop grasses. De penser un instant que j'étais chaste, c'est peu. Parce que quand je me présente avec mon masque, c'est sûr. Des fois quand je souris, en vérité je mens. Peu de gens me connaissent, je parle de véritablement. J'ai joué peut-être toi aussi, j't'ai amadoué. Agis contre ma volonté, rêvant de voir l'argent couler. On pense que tout nous est acquis à force de pas payer les factures. Deviens laid à regarder comme un visage avec une fracture. Fait que moi, j'suis solo, la seule de ma race. Pendant que tu jacasses, j'viens de sieste sous ma carapace. Je récite mes prières, celles que tu m'entends rappeler. Je te parle avec la lumière, te sers ce texte bien préparé. Je te parle aussi avec la mort, comme voir ton oncle au bout d'un fil. Si la vie n'en tient qu'à un, je l'ai trop vu qui se faufile. Qui te glisse entre les doigts, ancré en toi comme un fossile. On m'a dit et j'ai bien ri que j'avais l'air plutôt docile. Je suis né dans la dentelle, j'ai préféré le coton. Va savoir pourquoi je me suis dit c'est ce cocon. Mon thorax c'est barré, c'est vorace. Comment mon cou est contracté, mes pensées sont trop grasses. De penser un instant que j'étais chaste, c'est peu. Parce que quand je me présente avec mon masque, c'est sûr. Je me suis promené dans la forêt, développé l'œil du faucon. J'ai vu ma réalité qui me faisait faux bond. J'ai vu trop grand, puis j'ai vu pas plus loin que mon nez. J'ai vu tout noir puis j'ai senti mes nerfs se ronger. J'avoue, j'ai songé un instant, faudrait peut-être mieux renoncer. Aucune suite, aucune logique dans chacun de ces énoncés. Mais life, j'ai besoin de vivre. J'écris sans arrêter, sans délaisser aucune pensée. Je leur donne tout le droit d'exister. Je les dépose sur le papier, je peux dire que j'ai bien révisé. La classe est terminée, que je peux enfin respirer. Tu me vois passer à côté de toi, avancer à coups de 100 mètres. Appelle-moi la recrue, l'élève qui dépasse son maître. Avoir envers Robert, enlève pas le joual de ma bouche. Reste en séraphin, moi je garde mes arts de cette nuit touche. Tu trouves que je parle trop fort, que je marche trop large. Pendant que tu te bourres comme un porc, je m'arrache au large. Mon thorax c'est barré, c'est vorace. Comment mon cou est contracté, mes pensées sont trop crasses. De penser un instant que j'étais chaste, c'est peu. Parce que quand je me présente avec mon masque, c'est sûr. Besoin de poudre blanche avant qu'on puisse serrer tes hanches. Tes racines jusqu'aux branches, tu t'arraches au lieu d'être franche. Parce que ton sexe est maudit, t'attends des mâles en Audi. Parce que c'est tout ce qu'on t'a appris, rêve juste de quitter ton taudis. Dieu est relatif, tout comme une étoile. J'ai prié le ciel et j'ai prié les étoiles. J'ai vu le jour à nouveau comme une fleur qui se dévoile. Tu vois bien quand je parce que j'ai le vent dans les voiles. Avec le front sort, tu me dis que le féminisme est passé date. Les yeux tout ronds, tu cries, tu forces pour que je m'écarte. J'en veux pas, t'es éduqué dans la suprématie de l'homme. Depuis qu'Adam a dégusté le bon goût sucré de la pomme.
Vorace de Fidès, de retour aux Apatrides. J'ai maintenant Marie-Ève face à moi. On est passé tantôt, ben, Grèce, les îles Grecques, tout ça. On s'en va maintenant plus au nord vers la Manche.
Oui, ben, tout le monde a entendu parler, évidemment, là, du naufrage d'une embarcation de personnes migrantes dans la Manche le 24 novembre dernier, qui a fait 27 morts, ce qui en fait le plus meurtrier depuis 2018, là, le plus meurtrier des naufrages.
Dans la Manche.
Oui. Depuis, les autorités françaises et britanniques n'ont pas cessé de se renvoyer la balle quant à leur responsabilité dans ce drame qui, disons-le, était un peu prévisible. Quant à l'Union européenne, elle considère que depuis le Brexit, ben, c'est à la Grande-Bretagne de prendre les moyens nécessaires pour contrôler ses frontières. Les tensions entre la France et le Royaume-Uni se sont encore exacerbées après une lettre du premier ministre britannique Boris Johnson publié sur Twitter, dans lequel il demandait à la France de reprendre les migrants qui arrivent au Royaume-Uni.
Ah ben, OK.
Résultat, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annulé la participation de son homologue britannique, Priti Patel, à une réunion de crise sur les migrants entre la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Commission européenne, okay, à laquelle la Grande-Bretagne devait participer. Et donc, à l'issue de cette rencontre-là, finalement, il a été décidé de déployer un avion de Frontex. Donc, Frontex sont vraiment partout, hein?
Ben oui, ben c'est dans leur plan de s'étendre puis d'augmenter leurs tentacules. Mais...
Donc, un avion de Frontex au-dessus de la Manche pour surveiller la zone et empêcher les traversées. Malgré les chicanes avec Paris, le Royaume-Uni a quand même continué là, de proposer à la France plusieurs actions conjointes, dont le déploiement de patrouilles communes sur les côtes françaises. C'est pas une nouveauté. Ça a déjà été proposé. Et ce qui est pas une nouveauté aussi, c'est que le premier ministre français, Jean Castex, a encore une fois rejeté cette proposition-là pour des raisons de souveraineté. Bon, pour continuer à faire un peu des suivis là-dessus, dès le lendemain du naufrage, il y a 5 personnes soupçonnées d'être des passeurs qui ont été arrêtées. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la 5e avait une plaque d'immatriculation allemande et avait acheté des Zodiacs en Allemagne.
Okay.
La justice française, elle, a finalement réussi à identifier là, tout récemment 26 des 27 personnes migrantes mortes lors du naufrage, principalement grâce aux familles des victimes. Les 2 survivants ont reçu une autorisation de séjour en France. Et l'un d'eux a raconté aux journalistes que Malgré leurs appels de détresse, les autorités britanniques et françaises, toutes les deux, là, se sont renvoyées la balle pour procéder au sauvetage. Son témoignage a été corroboré par le père de l'autre survivant qui, lui, était en contact avec son fils via Messenger puis qui a suivi l'avancée de l'embarcation grâce à la géolocalisation. Et le père est formel. Le canot avait atteint les eaux anglaises, là, bel et bien.
Peu importe. C'est pas le temps de faire de la politique. T'as des gens qui sont en train de se noyer. Hein.
Oui, mais c'est sûr, mais lui, ce qu'il dit, c'est que les personnes se sont noyées dans les eaux britanniques, okay. Puis les vagues ont emporté les corps dans les eaux françaises. Bon. Sauf que, comme tu le dis, Simon, c'est pas le temps de faire de la politique sur le dos de victimes. Sauf que les autorités britanniques, elles, ont nié carrément ces allégations-là et affirment que le naufrage s'est produit dans les eaux françaises. Bref, l'enquête suit son cours, mais ce dont on semble sûr pour l'instant, c'est que le canot gonflable serait parti de Dunkerque, donc au sud de la France, puis aurait fini par ployer sous le poids de ses passagers.
Ben écoute, si un père d'un migrant est capable de suivre qu'est-ce qui se passe et de savoir dans quelles eaux ils sont, je pense que les Français et les Anglais devraient le savoir puis arrêter de se lancer la balle.
C'est ça. Mais pour ajouter en plus à ce lançage de balle-là qui est déjà révoltant et toute cette histoire est sinistre et révoltante, écoutez bien ça, 4 jours après le naufrage, OK, Gérald Darmanin...
Toujours notre préféré.
Encore lui, était en déplacement à Calais, est allé jusqu'à faire porter la responsabilité aux personnes migrantes.
Ah.
OK, il a affirmé, tenez-vous bien, que certaines des personnes migrantes se livraient à un chantage en menaçant de lancer leur bébé à l'eau ou de pousser des personnes âgées à la mer si les policiers français intervenaient pour les stopper dans leur traversée.
Du beau délire.
Évidemment, les associations de Calais et Grande-Synthe se sont dites choquées, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'indécence de tels propos. Les associations d'aide aux exilés rappellent que ce sont avant tout la surmilitarisation de la frontière et les démantèlements quotidiens des camps de fortune qui poussent les migrants à traverser la Manche en prenant tous ces risques-là. Je voudrais citer Marguerite Combe, qui est de l'association Utopia 56 à Calais. Elle dit « On parle de personnes dans une précarité extrême, de personnes qui ont perdu tous leurs moyens financiers dans des multiples tentatives de traversée, de personnes qui n'ont rien, qui n'ont plus rien. C'est trop facile de se dédouaner sur eux. » Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que 5 ans après le démantèlement là, de ce qu'on a appelé la jungle de Calais, il reste qu'il y a des centaines de personnes migrantes qui survivent toujours dans le froid et au rythme des expulsions quotidiennes dans leur campement. Leurs tentes sont presque toujours saisies et lacérées et leurs affaires personnelles sont souvent perdues. Si je donne l'exemple de Grande-Synthe, le campement où vivent actuellement environ 400 personnes n'a pas de point d'eau. Faut marcher 2 kilomètres pour boire. Et là, la situation est de plus en plus critique dernièrement parce que la température a beaucoup chuté ces dernières semaines. Il a neigé. La situation est sensiblement la même à Calais, où les autorités continuent d'interdire aussi les distributions de nourriture. On repousse les points de distribution alimentaire toujours plus loin des campements pour que les migrants ne puissent pas manger là où ils vivent et ben qu'ils ne puissent pas vivre là où ils vont manger.
C'est comme si on voulait quasiment les condamner à mort.
Mais ben c'est épouvantable. Fait que, tu sais, d'un côté, on est là puis on leur... Ah, bref, ça m'a tellement écœuré ces histoires-là. Parce que la situation est intenable là où ils sont.
Oui.
Là où elles sont. Puis ils en viennent à prendre des moyens hyper risqués, à mettre leur vie en jeu pour essayer de se sortir de situations intenables. Puis.
Déjà, quand ils prennent la mer, déjà très affaiblis ou même malades souvent, j'imagine, à cause des conditions dans lesquelles ils se trouvaient avant, t'sais. Mais
c'est ça.
Avec toutes les épreuves qu'on leur fait subir. Ben, écoute, merci Marie-Ève. On va aller avec quelques notes de musique. On retrouve Mathieu dans quelques instants.
We'll be right back.
toujours aux Apatrides, émission du 16 décembre 2021. Avant de redonner le micro à Mathieu pour des enjeux d'immigration plus locaux, une brève toute montréalaise. On évoquait récemment dans les médias la notion de désert médical, et comme de raison, ça concerne un quartier plutôt défavorisé et très multiculturel, parc extension, où on trouve énormément de personnes immigrantes et racisées avec une très grande représentation des communautés indiennes et du sous-continent indien. Désert médical, c'est assez évident, là. Ça veut dire gros manque de ressources en santé dans le quartier. Il y a deux médecins de famille à temps plein dans Parquex pour une population de 35 000 habitants, ce qui est pas mal en dessous de la moyenne provinciale, donc l'un des secteurs géographiques les moins bien desservis au Québec, avec des conséquences, on s'en doute, qui peuvent être catastrophiques, absence de diagnostic précoce, blessures mal guéries, maladies pas traitées. Il y a des analystes qui déplorent le fait que les médecins, en tant que travailleurs autonomes, paraît-il l'un des seuls endroits en Occident où ça fonctionne encore comme ça, ils sont entièrement libres de choisir où ils vont travailler. Et les quartiers où il peut y avoir des barrières culturelles ou de langue, où on serait plus confronté à de la misère, ça a pas la cote auprès de la plupart des médecins. Qui aussi aiment bien travailler près de chez eux, quoique Ville-Mont-Royal, juste à côté, là, mais en tout cas. Ce serait aussi difficile pour certains médecins qui parlent des langues du continent indien, donc qui seraient disposés à aller travailler là, qui aimeraient ça être affectés à Parc Extension, donc d'obtenir pour eux un permis de pratique à Montréal. Ce serait même plus facile pour certains d'entre eux de se tourner vers l'Ontario pour pouvoir pratiquer leur métier, donc là-dessus, je développerai pas plus, là, je connais pas vraiment les mécanismes de distribution des médecins sur le territoire. Une des solutions qui a déjà été proposée, ce serait d'imposer une affectation obligatoire de 3 ans dans les quartiers désertés par les médecins, mais on risque pas de voir ça de si tôt parce que ça viendrait remettre en question la sacro-sainte liberté des médecins de pratiquer où ça leur tente. Une autre solution qui a été proposée à Québec pour améliorer la répartition des médecins dans la région de Montréal et aider à combler le déficit dans Parquex, ce serait de créer une 13e sous-région administrative, mais Québec a refusé et n'a rien proposé en retour. Donc, les chiffres vont continuer à progresser dans le mauvais sens, surtout que Montréal vient de se faire encore amputer de 30 médecins par le ministère. Il y a d'ailleurs des recours juridiques qui sont actuellement en cours. Il faut dire que Parquex, pour la CAQ, c'est certainement pas comme Pointe-aux-Trembles ou Lévis. On retrouve tout de suite Mathieu pour on reste Québec-Canada pour des enjeux en immigration. J'ai comme l'impression que tu risques de nous parler du provincial, mais aussi du fédéral.
Surtout du fédéral.
Qu'il n'y aura pas tant de parties de ping-pong entre les deux là, qui disent « Non, c'est le fédéral. Non, c'est la provinciale. »
Non, les électeurs caquistes de Parc Extension, qui sont très nombreux, vont peut-être remarquer la subtilité et la nuance. Immigration Canada, Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada, refuse massivement les demandes de permis d'études déposées par des étudiantes, étrangers, étrangères, francophones, mm-hmm. principalement d'Afrique, qui souhaitent venir au Québec. C'est une nouvelle qui est sortie il y a 2 semaines, mais qui est comme retombée tout de suite après être sortie sur Radio-Canada. Il y a fait plusieurs articles. Le taux de refus des demandes destinées au Québec est nettement plus élevé que celles déposées dans les autres provinces canadiennes. Ce taux atteint ou dépasse même les 80% dans certains pays d'Afrique francophone pour venir, donc, pour les étudiants pour venir au Canada.
C'est énorme.
C'est énorme. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Pour gagner du temps dans l'analyse de ces dossiers, les agents d'Immigration Canada utilisent depuis 2018 un système informatique nommé Chinook. Celui-ci résume automatiquement les diverses informations du demandeur.
Excuse-moi de rire.
Dans une feuille de calcul Excel. Ça aussi, c'est pas mal drôle aussi. Or, c'est depuis l'implantation de cet outil très, très avant-gardiste que l'écart s'est creusé entre le Québec, qui soit majoritairement des demandes de candidats francophones et par rapport au reste du Canada. Le système Chinook était largement méconnu jusqu'à tout récemment. Son fonctionnement a été dévoilé à l'occasion d'une poursuite judiciaire qui impliquait le ministère fédéral de l'immigration. Côté des élus à Québec et à Ottawa, tout le monde capote, évidemment, tous les partis, tous les bars, sauf les libéraux, là, évidemment, fédéraux. Donc, sont tous sur la même longueur d'onde. Je cite Alexandre Boulris, « Ce système semble bel et bien faire de la discrimination systémique. Nous demandons des correctifs rapidement et plus de transparence de la part du ministère. Mm-hmm. » Immigration et l'équipe du ministre Sean Fraser, le nouveau ministre, se sont défendus en assurant que toutes les demandes de permis d'études sont analysées en fonction des mêmes critères, peu importe le pays d'origine. Ensuite, M. Fraser a promis de réviser certains programmes d'immigration, sans spécifier lesquels, sous l'angle de leur impact sur les clients racialisés. Je ne sais pas trop où il a pris ce terme-là.
C'est plus de points au Scrabble que racisé, en tout cas.
Bon. Selon M. Fraser, les décisions sur les étudiants internationaux sont prises en fonction de la capacité des étudiants à subvenir à leurs besoins et la propension qu'ils auront à retourner dans leur pays d'origine à la fin de leurs études. La langue maternelle des candidats-candidates n'est pas prise en compte dans l'analyse, selon le ministère. Peut-être vous dire qu'en moyenne, tout pays confondu, 61% des demandes de permis d'études visant un établissement québécois, là, cégep ou université, qui avait déjà donné son accord à l'étudiant, ont été rejetées en 2020. 61% contre 36% en 2017. Des chiffres bien différents de l'Ontario, qui est de 47%, et de la Colombie-Britannique, qui est de 37%. L'immense majorité des demandes provenant du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de la Guinée, de l'Algérie ou de la RDC sont refusées par Immigration Canada. Par exemple, le cégep de Jonquière a récemment déploré le refus d'Immigration Canada visant des étudiants ghanéens qui avaient pourtant tous reçu une bourse d'excellence du Québec. C'est le genre d'exemple comme ça qui se passe dans toutes les régions du Québec.
C'est crève-cœur. En plus, ils risquent de perdre leur bourse.
Ben, tout à fait. Non, c'est fou. Par ailleurs, face au nombre important de demandes de résidence temporaire provenant de l'Inde et de la Chine, Immigration Canada a lancé dès 2018 un autre programme, celui-là qualifié d'intelligence artificielle, pour traiter les demandes de visas touristiques. Ce système, qui a pour objectif d'éliminer certains biais discriminatoires, a depuis été élargi à l'étude des demandes de permis d'études de ces deux pays seulement, qui se comptent annuellement par dizaines de milliers. Donc, en 2019, le taux d'acceptation des demandes de permis d'études était de 64% pour l'Inde et de 85% pour la Chine. Donc, un système parallèle, un autre logiciel qui est pas Chinook, là, pour deux pays en particulier. Donc,
on est passé d'Excel à l'intelligence artificielle.
Mais seulement pour la Chine et l'Inde, c'est ça, pas pour les pays francophones d'Afrique. Et il faut savoir aussi que c'est pas la première fois qu'un tel problème est soulevé. Au printemps, un rapport gouvernemental du comité de la Chambre, un comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, avait mis en exergue cet enjeu. Les membres de ce comité avaient recommandé à Immigration Canada d'examiner les taux d'acceptation des étudiants étrangers dont les demandes sont traitées en Afrique, plus particulièrement dans les pays francophones, et d'élaborer un plan pour augmenter les taux d'acceptation des étudiants de cette région. C'était déjà su le problème. Une telle recommandation a-t-elle été suivie? Immigration ne répond pas à ces questions. Donc, il y a déjà un autre logiciel qui existe pour d'autres pays. Il y a aussi un comité de la Chambre qui dit qu'il y a un problème. Le Québec aussi le savait. Le Parti libéral le savait. Mais finalement, ça continue comme ça.
Compliqué quand même. Marie-Ève, tu avais un petit commentaire, je pense?
Non.
Non?
Ah. En terminant, on disait une minute.
Okay.
Justin Trudeau, hein, faut quand même le nommer, a souligné que la discrimination est inacceptable sur toutes ses formes. Nous n'allons tolérer aucune discrimination systémique dans nos programmes. Et il a précisé qu'un examen détaillé était en cours pour que notre système d'immigration soit robuste et équitable pour tous. Il aime bien le mot robuste. Donc, d'ici deux semaines, ça va être réglé avec ce qu'on vient de dire.
On est rassurés.
Mais c'est un problème. Puis ça a été dans les médias quelques jours et après ça, c'est parti. Mais ça touche des milliers de personnes et ça touche beaucoup en particulier les régions du Québec à travers les cégeps et universités.
Merci Mathieu. Donc, on s'en va dans un petit instant, et oui, déjà vers la conclusion de l'émission des Apatrides Anonymes. Déjà la fin de l'année, dernière émission 2021. On se laisse avec le bon coup de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. C'est la Barbade, ce tout petit État, ce micro-État des Caraïbes qui s'est proclamé république fin novembre, tournant définitivement le dos à la monarchie britannique et finalement devenant un véritable État indépendant. Donc, indépendance qui avait été acquise en 1966, mais la Barbade demeurait une monarchie constitutionnelle. Donc, cheers aux Barbadiens et Barbadiennes. J'ai vérifié, c'est bien ça le gentilé. Mm-hmm. Le prince Charles était sur place pour assister à la cérémonie de républicanisation. J'ai vérifié le mot aussi, ça existe, c'est un vrai mot. Il était en compagnie de la maintenant ex-gouverneure générale élue, Sandra Mason, qui devient présidente de ce qui est maintenant une république constitutionnelle et non plus une monarchie constitutionnelle. Donc, le seul aspect triste, c'est qu'Élisabeth II n'est plus le chef d'État de la Barbade.
Mais le prince Charles, il a dansé avec Shakira, hein? C'est ça que j'ai compris.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ben oui,
je vais retourner faire
une
party. C'est la citoyenne d'honneur de cette île.
Les margaritas devaient se faire aller là.
J'en rajouterai pas plus.
Non, je vais conclure tout de suite. Donc, c'est ça pour les Apatrides, dernière émission de 2021. On va se retrouver en 2022. Ça va être le 13 janvier avec notre maintenant traditionnel bilan de l'année en humour. Peut-être un quiz que Marie-Ève nous préparera. Ou en
Madame Quiz
en personne. Nos coordonnées apatridesanonymes.info, c'est notre site web. On a une page FB. le courriel apatrides anonymes, tout au pluriel, à commercialresist.ca. Et ben, il y a la page des apatrides anonymes sur choc.ca, évidemment. C'était Simon à l'animation. Merci beaucoup à Marie-Ève et à Mathieu.
Bravo Simon pour l'animation.
Bravo à toi. Bravo. On se dit tout le monde bravo.
On est tous très bons et bonnes.
Hey, mais là, faites attention à vous autres pendant le temps des fêtes. Là.
Ben, on n'aura pas même le choix. On va devoir être encabané, j'ai l'impression.
Plus le droit de rien faire.
Ouais, liberté.
Donc, on a 4 semaines sans émission, donc on aura le temps de se renflouer de sujets. Hein, Simon?
Oui, oui, et effectivement, se revigorer la parlure, comme dirait en langage du temps des fêtes.
OK.
On se laisse en musique, une excellente sortie de mai 2021, mais on n'en avait pas encore fait jouer, c'est Fly Panam, leur album Frontera, ça rejoint un peu nos thématiques. Les pièces Fences que j'ai mixées, hier soir j'avais rien à faire, que j'ai mixées avec Grid Wall, donc Fences, Grid Wall, ça rejoint pas mal les thématiques.
Clôture, des mur, ben oui, toi.
Oui, vous allez voir, ça se mixe vraiment bien parce que le tempo est exactement le même. Donc ça commence avec Fences, 2 minutes, ensuite ça se superpose avec Grid Wall, vous en rendrez même pas compte. Donc voilà, vous êtes sur choc.ca, c'était les apatrides anonymes. Merci encore Mathieu Marie-Ève. Bonne soirée tout le monde.
Simon, t'es le master du montage.
Ah, je suis MC Mario Mastermind de Choc. Donc, bon temps des fêtes et on se revoit en 2022.
Salut!